E.T.A. Hoffmann, le conseiller Crespel. Théodore prit la parole en ces termes. Ce conseiller Crespel est en effet l'homme le plus excentrique que j'ai rencontré de toute ma vie. Lorsque j'arrivais à H pour y séjourner quelque temps, toute la ville s'occupait de lui à cause d'un de ses meilleurs traits d'originalité, de date toute récente. Crespel se distinguait comme savant juriste-consulte et habile diplomate. Le prince régnant d'une petite souveraineté d'Allemagne l'avait chargé de la rédaction d'un mémoire tendant à établir la légitimité de ses prétentions sur un certain territoire et qui fut adressé à la cour impériale. Le résultat en fut des plus favorables et Crespel s'étant plaint une fois de n'avoir jamais pu trouver une habitation commode à son gré, le prince, pour le récompenser de son mémoire, se chargea d'acquitter les frais d'une maison que Crespel ferait bâtir absolument à sa convenance. Le prince voulait même payer un terrain dans l'emplacement qu'il plairait à Crespel de choisir. Mais celui-ci déclina cette offre, ayant résolu de faire bâtir sa maison dans un jardin à lui, situé aux portes de la ville, dans une exposition des plus agréables. Il commença par acheter tous les matériaux nécessaires et les fit transporter à cet endroit. Dès ce moment, on le vit chaque jour et du matin au soir avec son bizarre costume, qu'il avait du reste confectionné lui-même d'après certains principes particuliers. Éteindre la chaux, passer le gravier au sas, ranger les moellons en tas réguliers, etc., etc. Il n'avait consulté aucun architecte. Il n'avait songé à tracer aucun plan. Un beau jour, néanmoins, il alla trouver un honnête maître maçon et le pria de se rendre le lendemain au point du jour à son jardin, avec ses garçons, ses ouvriers et force manœuvre pour ériger sa maison. Le maître maçon demanda naturellement à voir le devis et ne fut pas peu surpris d'entendre Crespel lui répondre que cela était tout à fait superflu et que tout s'arrangerait aussi bien que possible. Quand le maître arriva le lendemain matin sur les lieux avec ses gens, il trouva un fossé tracé en carrés réguliers et Crespel lui dit « Voici où il faut établir les fondations de ma maison et je vous prierai ensuite d'élever les quatre murailles jusqu'à ce que je dise « c'est assez ». « Sans fenêtre, sans porte, sans mur de refin ?» demanda le maçon, comme épouvanté de la folie de Crespel. « Comme je viens de vous le dire, mon brave homme, » répliqua Crespel tranquillement, « le reste viendra plus tard. » La promesse d'une riche récompense put seule déterminer le maître maçon à entreprendre cette construction singulière. Mais œuvre du métier ne fut jamais plus joyeusement accomplie, car ce fut au milieu de rires continuels que les ouvriers, sans quitter la place et abondamment défrayés du boire et du manger, exhaussèrent les quatre murailles avec une rapidité surprenante, jusqu'à ce qu'un jour Crespel cria « Halt !» Aussitôt, les battes et les pioches se turent, les ouvriers descendirent des échafaudages, et, rangés autour de Crespel, tous paraissaient demander avec leur air railleur. « Eh bien, comment va-t-il s'y prendre à présent ?»« Place !» s'écria Crespel, et il courut à un bout du jardin. Puis, à pas lents, il marcha droit vers son bâtiment carré. Arrivé près du mur, il secoua la tête d'un air mécontent. Il courut à un autre coin du jardin, marcha de nouveau sur le bâtiment, et fit la même pantomime. Il répéta encore plusieurs fois cette manœuvre jusqu'à ce qu'enfin, accourant de manière à se casser le nez contre le mur, il cria de toutes ses forces « Arrivez, arrivez, vous autres ! Ici, une porte ! Percez-moi une porte, ici !» Il donna la longueur et la largeur exactes, en pieds et en pouces, et l'on fit ce qu'il demandait. Alors il entra dans le bâtiment et sourit d'un air satisfait à la remarque d'un maître maçon que les murs avaient juste la hauteur d'une maison de 2 bons étages. Crespel se promenait de long en large dans l'espace intérieur, les maçons armés de pioches et de marteaux derrière lui, et à mesure qu'il s'écriait « Une fenêtre ici, 6 pieds de haut, 4 de large, là-bas une petite fenêtre, 3 pieds de haut, 2 de large », on les perçait aussitôt. Ce fut justement pendant cette opération que j'arrivais à H. Et c'était un spectacle fort divertissant que de voir plusieurs centaines de curieux attroupés en dehors du jardin et poussant de grands cris de joie quand les pierres volaient tout à coup et quand une nouvelle fenêtre apparaissait, là où on ne l'aurait nullement soupçonné. Crespel agit de la même manière pour tout le reste de la maison, en faisant exécuter sur le moment, d'après son inspiration soudaine, les ouvrages nécessaires à son achèvement. La bizarrerie de l'entreprise, la conviction acquise qu'en définitive les choses s'étaient arrangées, mieux qu'on ne devait s'y attendre, et surtout la libéralité de Crespel, qui lui était peu onéreuse à la vérité, entretinrent la bonne humeur de son monde. Toutes les difficultés que devait occasionner cette manière de bâtir aventureuse furent donc surmontées. Et l'on vit, en peu de temps, tout à fait achevé, une maison de l'aspect le plus étrange à l'extérieur. Car pas une fenêtre n'était semblable à une autre, et de tout le reste à l'avenant. Mais sa distribution intérieure causait l'impression la plus satisfaisante. Tous ceux qui la visitèrent le proclamaient. Et j'en fus convaincu moi-même quand Crespel, après une connaissance plus intime entre nous, m'y introduisit. Jusqu'à ce moment, je n'avais pas encore entretenu cet homme singulier. Son édifice l'occupait à tel point qu'il s'abstint de venir dîner les mardis chez le professeur M, suivant son habitude, et que même il lui fit répondre, sur son invitation expresse, qu'il ne ferait point un pas hors de chez lui avant la fête d'inauguration de sa nouvelle maison. Tous ses amis et connaissances s'attendaient à un repas de cérémonie, mais Crespel n'avait invité personne que la réunion des maçons, compagnons, apprentis et manœuvres qui avaient travaillé à sa maison. Il les traita avec la dernière recherche. Des gâcheux de plâtre dévoraient à belles dents de succulents pâtés de perdrix. Des garçons charpentiers écharpaient avec délices des râbles de faisans rôtis, et d'affamés manœuvriers se servaient sans façon eux-mêmes les morceaux les plus fins d'exquis ragoûts truffés. Le soir, leurs femmes et leurs filles se joignirent à eux, et l'on ouvrit un grand bal. Crespel valsa avec plusieurs femmes de maître maçon, puis il prit place au milieu des musiciens, et le violon en main, dirigea l'orchestre jusqu'au jour. Le mardi, d'après cette fête, qui fit valoir Crespel comme un ami du peuple, je le rencontrai enfin à ma grande joie chez le professeur M. On ne peut rien imaginer de plus surprenant que la manière d'être de Crespel. Gauche et raide dans ses mouvements, je craignais à chaque instant qu'il ne heurtât quelque chose ou ne commît une maladresse. Il n'en fut rien cependant. Et on le savait d'avance, car la maîtresse de la maison ne s'émut pas le moins du monde en le voyant tournoyer précipitamment près d'une table chargée de porcelaine du plus grand prix, ni en le voyant se démener à côté d'une glace superbe qui touchait au plancher, et s'emparer même d'un vase à fleurs admirablement peint qu'il agitait en l'air comme pour en faire refléter les couleurs. Comme un général, Crespel passa en revue avec une scrupuleuse attention, en attendant le dîner, tout ce qui était dans le salon du professeur. Il détacha même un tableau du mur et le remit en place en grimpant sur un fauteuil. Il parla beaucoup et avec feu. Tantôt, ce fut surtout remarquable durant le dîner, il sautait brusquement d'un sujet à l'autre. Tantôt, il ne pouvait se détacher d'une idée, y revenant à 1000 reprises, tombant dans des erreurs multipliées. et ne pouvant retrouver le fil de ses pensées jusqu'à ce qu'autre chose le frappa plus vivement. Sa voix était tantôt rauque et criarde, tantôt sourde, psalmodique et traînante, mais jamais sur le ton qui aurait convenu à ce que Crespel disait. Il fut question de musique. On faisait l'éloge d'un nouveau compositeur. Crespel sourit et dit de sa voix basse et chantante « Que je voudrais donc que Satan emporta sur ses ailes noires ce maudit griffonneur de notes à 10 000 millions de toises au fond des enfers !» Puis il s'écria avec transport et d'une voix effroyable « C'est un ange du ciel, tout en elle est harmonie, musique divine, la lumière et l'astre du chant !» En même temps, ses yeux se gonflaient de larmes. Il fallait se rappeler qu'une heure auparavant, on avait parlé d'une cantatrice fort célèbre. On servit un rôti de lièvre. J'observai que Crespel mettait soigneusement les os à part sur son assiette et qu'il demanda compte des pattes du lièvre que la petite fille du professeur, enfant de 5 ans, lui apporta en souriant familièrement. Les enfants, du reste, avaient déjà considéré pendant le dîner le conseiller d'un air très amical. À la fin, ils se levèrent et s'approchèrent de lui, non sans une respectueuse timidité, et à la distance de 3 pas. « Que va-t-il se passer ? » pensai-je en moi-même. On apporta le dessert. Alors le conseiller tira de sa poche un coffret qui renfermait un petit tour en acier. Il l'assujettit à la table et se mit à tourner dans les os du lièvre avec une adresse et une promptitude incroyables, toutes sortes de petites boîtes, de billes et de tabatières fort exiguës que les enfants reçurent tout joyeux. Au moment de quitter la table, la nièce du professeur demanda « Que devient donc notre Antonia, cher conseiller ?» Crespel fit une grimace, comme quelqu'un qui mord dans une orange amère et qui veut pourtant se donner l'air d'avoir goûté un fruit savoureux. Mais bientôt, sa figure prit une expression courroucée, affreuse à voir, et je lus dans son étrange sourire l'empreinte d'une ironie presque diabolique. Notre chère Antonia ? Demanda-t-il d'une voix traînante et désagréablement modulée. Le professeur se hâta d'intervenir. Au coup d'œil de reproche qu'il lança à sa nièce, je sentis qu'elle venait de toucher une corde qui devait résonner d'une manière pénible pour Crespel. Comment vont les violons ? Demanda le professeur gaiement, en serrant les mains du conseiller dans les siennes. Le visage de Crespel s'éclaircit aussitôt, et il répondit avec sa voix forte « Parfaitement, professeur. J'ai commencé aujourd'hui à mettre en pièces l'excellent violon d'Amati, qu'un heureux hasard a fait tomber entre mes mains, comme je vous l'ai dernièrement raconté. J'espère qu'Antonia aura soigneusement démonté le reste. » « Antonia est une bonne fille, » dit le professeur. « Oh oui, vraiment, c'est une bonne fille !» s'écria le conseiller. Et se retournant brusquement, il saisit son chapeau et sa canne et s'élança précipitamment par la porte. Je remarquai dans un miroir qu'il avait les yeux baignés de larmes. Dès que le conseiller fut parti, je pressai le professeur de m'apprendre quel rapport avec Crespel, avec les violons et surtout avec Antonia. « Ah !» dit le professeur. « Le conseiller, qui est un homme tout à fait merveilleux, fait aussi des violons. Et il ne montre pas moins d'extravagance en cela que dans tout le reste. » « Il fait des violons ? » répétai-je tout étonné. « Oui, » continua le professeur, « Crespel confectionne, de l'avis des connaisseurs, les meilleurs violons que produise notre époque. Autrefois, quand il avait réussi dans son travail, on était libre de faire usage de l'instrument. Mais depuis quelque temps, il a tout à fait changé de méthode. Dès qu'il a terminé un violon, il en joue, pendant 1 heure ou 2, et cela avec un talent des plus rares, avec l'expression la plus entraînante. Et puis, il l'accroche auprès des autres pour n'y plus jamais toucher et sans permettre que personne s'en serve. S'il sait où trouver quelques violons d'anciens maîtres célèbres, le conseiller les achète, quel que soit le prix qu'on en demande. De même qu'avec ses violons, il n'en joue qu'une seule fois. Et ensuite, il les démonte, afin d'examiner scrupuleusement leur structure intérieure. Et s'il n'y trouve pas ce qu'il y cherche, d'après ses idées, Il en jette les morceaux avec dépit dans une grande caisse qui est déjà pleine de débris de violons démontés. « Mais, Antonia, demandai-je avec vivacité. « Hein, quant à cela, reprit le professeur, il y aurait de quoi me faire prendre en haine le conseiller si je n'étais convaincu, en raison du caractère de Crespel, éminemment bon et même enclin à la faiblesse, qu'il y a nécessairement quelque mystère à ce sujet. Il y a plusieurs années, quand le conseiller vint habiter cette ville, il vivait en anachorète, avec une vieille gouvernante dans une maison obscure de la rue de... Bientôt, il excita par ses singularités la curiosité des voisins. Aussitôt qu'il s'en fut aperçu, il chercha et se fit des connaissances. Ainsi que chez moi, on s'accoutuma partout à lui, au point qu'il devint presque indispensable. Malgré sa rudesse apparente, les enfants eux-mêmes finirent par l'aimer sans cependant lui devenir à charge. Car en dépit de leur sympathie, ils conservent pour lui une certaine vénération craintive qui le préserve de leurs importunités. Vous avez pu voir aujourd'hui par quelle séduction il sait gagner leur amitié. On le croyait partout un vieux garçon et il ne songeait point à s'en défendre. Après quelque temps de séjour ici, il partit subitement. Personne n'a su pour quel endroit. Et il revint plusieurs mois après. Le lendemain, au soir de son retour, on vit les fenêtres de Crespel éclairées d'une façon inusitée. Cette première circonstance donna l'éveil à l'attention des voisins. Mais bientôt, la voix merveilleusement belle d'une femme, accompagnée par un piano, se fit entendre. Puis l'on distingua le son d'un violon qui luttait avec la voix, de vigueur et d'expression. On reconnut aussitôt que c'était le conseiller qui jouait. Moi-même, je me mêlai à la foule nombreuse que l'admirable concert avait réunie devant la maison du conseiller. Et je dois vous avouer qu'auprès de cette voix et de la magie de son accentuation, le chant des cantatrices les plus renommées que j'ai entendues me semblait fade et dénué d'expression. Jamais je n'avais conçu l'idée de son pareil, si longuement soutenu, de ces roulades empruntées au rossignol, de ces gammes ascendantes et descendantes, de cet organe, enfin, tantôt vibrant avec l'énergie et la sonorité des sons de l'orgue, tantôt n'émettant qu'un souffle à peine perceptible et d'une suavité sans égale. Il n'y avait personne qui ne fût sous le charme du plus doux enchantement, et ce profond silence ne fut troublé que par de légers soupirs lorsque la voix se tut. Il pouvait déjà être minuit quand on entendit le conseiller parlant avec une violence extrême. Une autre voix d'homme paraissait, à en juger par ses indexions, lui adresser des reproches, et une jeune fille se plaignait par intervalles en paroles entrecoupées. Le conseiller criait toujours plus fort, jusqu'à ce qu'enfin il tombât dans cet accent traînant et psalmodique que vous lui connaissez. Un cri perçant de la jeune fille l'interrompit. Puis il se fit un morne silence, puis tout à coup, l'on entendit du fracas dans l'escalier. Un jeune homme se précipita en sanglotant hors de la maison et se jeta dans une chaise de poste attelée à quelque distance et qui partit rapidement. Le lendemain, le conseiller se montra et il avait une contenance sereine, mais personne n'eut le courage de l'interroger sur les événements de la nuit précédente. Cependant, sa gouvernante questionnée révéla que le conseiller avait amené avec lui une charmante et jeune fille qu'il appelait Antonia et que c'était elle qui avait si bien chanté. Qu'un jeune homme les avait aussi accompagnés, qui montrait pour Antonia une grande tendresse et devait sans doute être son fiancé, mais que l'absolue volonté de Crespel l'avait contraint à un départ immédiat. Les rapports d'Antonia avec le conseiller sont jusqu'ici un secret. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il tyrannise la pauvre enfant, de la façon la plus odieuse. Il la surveille, comme le docteur Bartolo sa pupille dans le barbier de Séville. À peine ose-t-elle se montrer à la croisée. Si quelquefois cédant à d'instantes prières, il la conduit en société, Il tient fixés sur elle des yeux d'Argus et ne souffre absolument pas qu'on fasse entendre en sa présence la moindre note de musique, et encore bien moins quand Tonia chante elle-même, ce qu'il lui interdit au reste, même chez lui. Aussi, le chant d'Antonia à ce concert nocturne est-il devenu dans le public une tradition qui émeut l'âme et l'imagination d'un enthousiasme sans pareil. Et il n'est pas rare que ceux-mêmes qui ne l'ont pas entendu disent ici, après le début de quelques cantatrices, « Hum, qu'est-ce que ce glapissement banal ? Antonia seule sait chanter !» Vous savez combien j'ai l'esprit vivement frappé de toutes ces choses fantastiques, et vous pouvez imaginer s'il me parut important de faire la connaissance d'Antonia. J'avais déjà souvent recueilli moi-même, dans le public, ses propos sur le chant de la jeune fille. Mais je ne soupçonnais pas que la merveilleuse Antonia fût, dans la ville et en la puissance de ce fou de Crespel, comme entre les mains d'un magicien tyrannique. La nuit suivante, j'entendis naturellement en rêve le chant d'Antonia qui me suppliait de la manière la plus touchante de venir à son secours, et cela dans un magnifique adagio que par une illusion ridicule je croyais avoir composé moi-même. Je fus donc bientôt résolu à pénétrer, nouvelle Astolphe, dans la maison de Crespel comme dans le palais enchanté d'Alcine, pour délivrer la reine du chant de son odieuse captivité. Tout se passa autrement que je ne l'avais supposé, car à peine eus-je vu le conseiller deux ou trois fois et causé avec lui de la meilleure structure des violons, qu'il m'invita de lui-même à venir le visiter chez lui. Je n'y manquai pas, et il me fit voir sa riche collection de violons. Il y en avait bien 30 d'accrochés dans un cabinet. Un d'eux, entre tous, qui se distinguait par tous les caractères de la plus haute ancienneté, manches à tête de lion, sculptées, etc., était suspendu à une plus grande élévation, et une couronne de fleurs dont il était surmonté semblait le désigner comme le roi des autres. « Ce violon, dit Crespel, après que je l'eus interrogé à ce sujet, est l'œuvre rare et merveilleuse d'un maître inconnu, probablement contemporain de Tartini. » Je suis persuadé qu'il y a dans sa structure intérieure quelque chose de particulier, et qu'en le démontant, je découvrirai la clé du problème dont je poursuis depuis longtemps la solution. Moquez-vous de moi si vous voulez, mais cet objet inanimé auquel je ne communique la vie et le son qu'à ma volonté m'adresse souvent de lui-même un mystérieux langage. Et lorsque j'en jouais pour la première fois, il me semble que mon rôle était celui du magnétiseur, dont l'influence provoque chez le sujet somnambule la révélation orale de ses propres sensations intimes. Ne croyez pas que j'ai la folie d'ajouter foi le moins du monde à de semblables observations, mais il est pourtant bien étrange que je n'aie jamais pu prendre sur moi de démonter cette sotte et inerte machine. Je me félicite toutefois d'y avoir renoncé, car depuis qu'Antonia est avec moi, je lui joue de temps en temps quelque chose sur cet instrument. Antonia éprouve du plaisir à l'entendre, un vif plaisir. Le conseiller prononça ces mots avec un attendrissement visible. Cela m'encouragea à lui dire « Oh, mon excellent monsieur le conseiller, ne voudriez-vous pas en jouer devant moi ?» Mais Crespel prit son air aigre-doux et dit de sa voix traînante et cadencée « Non, mon cher monsieur l'étudiant !» La chose en resta là. Il me fallut continuer à examiner avec lui toutes sortes de raretés, puériles pour la plupart. Enfin, il chercha dans une petite boîte et en tira un papier plié qu'il me mit dans la main en me disant avec beaucoup de solennité « Vous êtes un ami de l'art, acceptez ce don comme un souvenir bien cher qui doit vous être à jamais précieux par-dessus tout. » En disant cela, il me poussa doucement du côté de la porte et sur le seuil, il m'embrassa. Dans le fait, c'était me mettre hors de chez lui d'une manière symbolique. En ouvrant le papier, je trouvai un petit morceau d'une quinte, long d'un huitième de pouce à peu près, et le papier portait cette étiquette « Morceau de la quinte dont feu Stamitz avait monté son violon lorsqu'il donna son dernier concerto. » Le congé impoli que je reçus, après avoir fait mention d'Antonia, semblait devoir me confirmer dans l'idée que je ne la verrais peut-être jamais. Mais il n'en fut pas ainsi, car à ma seconde visite au conseiller, je trouvai Antonia dans la chambre, l'aidant à l'assemblage des pièces d'un violon. L'extérieur d'Antonia ne causait pas au premier abord une forte impression, mais, insensiblement, il devenait impossible de détourner ses regards de l'œil bleu et des lèvres rosées de cette figure, empreinte d'une grâce et d'une délicatesse extraordinaires. Elle était très pâle, mais, disait-on, quelque chose de piquant et de spirituel, aussitôt avec un doux sourire, un vif incarnat, se répandait sur ses joues, qui n'en gardaient, hélas, qu'un instant la mourante lueur. Je m'entretins avec Antonia en toute liberté, et je ne remarquais absolument rien dans Crespel de ces regards d'Argus que lui avait attribué le professeur. Il demeura, au contraire, constamment dans son état habituel, et même il paraissait satisfait de nous voir converser ensemble. Il arriva donc que mes visites au conseiller devinrent plus fréquentes et que l'habitude réciproque de nous voir communiqua à notre petit cercle en trois personnes certains charmes délicieux qui nous procuraient un intime plaisir. Le conseiller, avec ses singularités, me réjouissait toujours autant. Mais ce n'était en réalité que la société d'Antonia qui m'attirait par une séduction irrésistible et me faisait supporter maintes choses auxquelles, sans cela, impatient comme je l'étais alors, j'aurais eu hâte de me soustraire. Dans l'originalité et la bizarrerie du conseiller, il ne se mêlait en effet que trop souvent des circonstances insipides et contrariantes. Mais ce qui me déplaisait surtout, c'était chaque fois que j'amenais la conversation sur la musique, et particulièrement sur le chant, de le voir m'interrompre avec son sourire diabolique et son accent traînant et insupportable, pour mettre sur le tapis quelques propos complètement hétérogènes et presque toujours des plus triviales. Au mécontentement plein d'amertume qui se peignait alors dans les yeux d'Antonia, je devinais aisément que cela n'avait pour but que de me détourner de l'inviter à chanter. Je ne me rebutais pas. Les obstacles que m'opposait le conseiller accrurent mon courage et ma résolution de les vaincre. J'avais besoin d'entendre le chant d'Antonia pour échapper aux tourments dont me rendait le jouet de vaines suppositions et mes rêves à ce sujet. Un soir, Crespel était d'une humeur tout à fait réjouie. Il venait de démonter un vieux violon de Crémone et avait trouvé l'âme inclinée d'une demi-ligne de plus qu'à l'ordinaire. Découverte inappréciable et d'une importance majeure pour la pratique. Je réussis à l'échauffer au sujet de la vraie manière de jouer du violon. L'exécution des célèbres et dignes virtuoses que citait Crespel pour les avoir entendus amena tout naturellement la remarque qu'aujourd'hui le chant, au contraire, se modelait sur des roulades prétentieuses et les traits heurtés des instrumentistes. « Quoi de plus absurde ? » m'écriai-je, en m'élançant de ma chaise au piano et l'ouvrant avec promptitude. « Quoi de plus absurde que ces procédés bizarres qui, loin d'être de la musique, ressemblent au bruit que font des poids renversés par terre. » Là-dessus, je répétais, en les accompagnant de quelques méchants accords, plusieurs de ces finales modernes, qui courent par bonds et traverses, bourdonnant à l'oreille comme une toupie vigoureusement lancée. Crespel riait aux éclats, et il s'écria « Ha 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 ! Il me semble entendre nos Italiens germanisés, ou nos Allemands italianisés, chantant un air de Puccita ou de Portogallo, ou de quelque autre maestro di cappella, ou plutôt schiavo d'un primo uomo. Voilà. Voici le moment, pensais-je. N'est-ce pas, dis-je en me tournant vers Antonia, n'est-ce pas ? Antonia ne connaît rien de cette manière de chanter. Et en même temps, j'entonnais un air admirable et passionné du vieux Leonardo Leo. Les joues d'Antonia se colorèrent soudainement, ses yeux ranimés étincelèrent d'un céleste éclat. Elle s'élança près du piano, elle ouvrit les lèvres, mais au même instant, Crespel la poussa en arrière. Et me prenant par les épaules, il me cria d'une voix aiguë de ténor « Mon ami, mon ami, mon ami !» Et il continua de son ton chantant avec une contenance polie et révérencieuse en me tenant par la main. « Sans doute, mon digne et respectable monsieur l'étudiant, cela choquerait toutes les convenances et les bons usages s'ils exprimaient hautement et sans réserve le désir que Satan vous tordit bien doucement le cou de ses griffes brûlantes et qu'il vous expédia ainsi au plus tôt votre compte. Mais à part cela, vous conviendrez, mon très cher, qu'il fait considérablement sombre. » Et comme il n'y a point aujourd'hui de lanterne allumée, vos chers petits os courraient le risque d'être endommagés. Quand même, je ne vous jetterai pas précisément par les escaliers. Rentrez donc gentiment au logis et gardez un souvenir bénévole de votre véritable ami s'il arrivait que... Comprenez-vous bien ? Que vous ne le trouvassiez dorénavant jamais chez lui. » À ces mots, il m'embrassa et me fit reculer, enlacé dans ses bras et tournoyant jusqu'en dehors de la porte, de telle façon que je ne pus jeter sur Antonia un seul regard d'adieu. Vous avouerez que, dans ma position, il n'était pas possible de bastonner le conseiller, ce qui aurait dû cependant arriver. Le professeur me railla beaucoup et assura que j'avais cette fois gâté pour toujours mes relations avec le conseiller. Quant à faire l'amoroso langoureux et à jouer devant les fenêtres d'Antonia le rôle de coureur d'aventure, Antonia m'était trop chère pour cela, je dirais presque trop sacré. Je quittais H le cœur déchiré, mais, comme il arrive presque toujours, les vives couleurs de ce tableau fantastique pâlirent peu à peu, et l'image d'Antonia, oui, même le chant d'Antonia, ce chant que je n'avais jamais entendu, dormait dans les profonds replis de mon âme, d'où s'échappait souvent néanmoins, telle qu'une lueur parfumée, une sensation consolatrice et délicieuse. Deux ans après, j'étais établi à B, lorsque j'entrepris un voyage dans l'Allemagne méridionale. Les tours de H s'élevaient dans le vaporeux crépuscule du soir. À mesure que j'approchais, un sentiment inexprimable de pénible anxiété s'empara de moi. J'avais un poids sur la poitrine, je ne pouvais plus respirer. Il me fallut descendre de la voiture. Mais cette oppression augmenta jusqu'à produire la souffrance physique. Bientôt, je crus entendre un chant mesuré retentir dans l'air. Les tons devinrent plus distincts et je discernais des voix d'hommes qui entonnaient un chant sacré. Cela, Qu'est-ce que cela ? M'écriai-je, frappé comme de l'atteinte d'un brûlant coup de poignard. Ne le voyez-vous pas ? Répondit le postillon qui était à mes côtés. Ne le voyez-vous pas là-bas, dans le cimetière ? Quelqu'un qu'on enterre ? En effet, nous dominions le cimetière, et je vis un cercle de gens vêtus de noir autour d'une fosse qu'on était en train de combler. Les larmes jaillirent de mes yeux, il me semblait qu'on enterrait là-bas tout un monde de joie et de bonheur. En descendant avec célérité la pente de la colline, je perdis de vue le cimetière. Le cœur se tut, et je rencontrai, à peu de distance de la porte de la ville, des personnes en deuil qui revenaient de l'enterrement. Le professeur donnant le bras à sa nièce, tous deux en grand deuil, passa tout près de moi sans me remarquer. La jeune fille tenait son mouchoir sur son visage, inondé de pleurs. Je ne pus me résoudre à pénétrer dans la ville. J'envoyai mon domestique avec la voiture à l'auberge accoutumée, et je courus vers la demeure que je connaissais bien pour me délivrer par mon propre témoignage de cette impression de tristesse qui peut-être n'avait que des causes purement physiques, comme l'échauffement du voyage, etc. Dans une avenue du jardin conduisant à un pavillon d'agrément, le spectacle le plus singulier s'offrit à ma vue. Le conseiller Crespel était conduit par deux hommes en deuil, auxquels il paraissait vouloir échapper en faisant les sauts les plus extraordinaires. Il portait, comme de coutume, son habit gris, de forme étrange et taillé de ses propres mains. Seulement, du petit chapeau tricorne qu'il avait enfoncé martialement sur une oreille, pendait un très long crêpe flottant à l'aventure. Il avait agrafé autour de son corps un ceinturon d'épée noire, mais, au lieu de l'épée, il y avait passé un long archet de violon. Un froid glacial parcourut mes membres. « Il est fou !» pensai-je, en le suivant à pas lents. Ces hommes conduisirent le conseiller jusqu'à sa maison. Là, il les embrassa en riant aux éclats. Ils le quittèrent, et alors son regard tomba sur moi, qui me trouvais tout près de lui. Il me regarda longtemps, fixement, puis il s'écria d'une voix sourde. « Soyez le bienvenu, monsieur l'étudiant. Vous êtes de ceux qui comprennent, vous. » À ces mots, il me saisit par le bras, m'entraîne dans la maison, monte l'escalier et m'introduit dans la chambre où étaient pendus ses violons. Tous étaient recouverts d'un crêpe noir. Le violon de l'ancien maître avait disparu. À sa place était une couronne de cyprès. Je compris ce qui était arrivé. « Antonia ! Ah ! Antonia ! » m'écriai-je dans un affreux désespoir. Le conseiller se tenait près de moi, immobile et les bras croisés. Je montrai du doigt la couronne de cyprès. « Lorsqu'elle mourut, dit le conseiller d'une voix étouffée et solennelle, lorsqu'elle rendit le dernier soupir, l'âme de ce violon se brisa avec un craquement horrible, et la table d'harmonie se déchira complètement. Le fidèle instrument ne pouvait vivre qu'avec elle et par elle. Il a été enterré avec elle, il est près d'elle, dans la tombe. Profondément ému, je tombai sur un siège. Mais le conseiller commença à entonner d'une voix rauque une chanson des plus gaies, et c'était vraiment un affreux spectacle que de le voir en même temps sauter à cloche-pied autour de la chambre, tandis que le crêpe de son chapeau, qu'il n'avait pas quitté, tournoyait avec lui et frôlait les violons accrochés au mur. Je ne pus retenir un cri perçant lorsque ce crêpe, à une pirouette rapide du conseiller, vint à passer sur ma tête. Il me semblait qu'il allait m'envelopper tout entier et m'entraîner dans le sombre et redoutable abîme de la folie. Le conseiller s'arrêta alors, et de sa voix chantante, « Mon petit ami, dit-il, mon petit ami, pourquoi cries-tu de la sorte ? Aurais-tu vu l'ange de la mort ? Cela précède toujours la cérémonie. » Et puis, il avança au milieu de la chambre, saisit violemment l'archet pendu à son ceinturon, l'éleva des deux mains au-dessus de sa tête, et le rompit si furieusement qu'il le fit voler en mille éclats. Crespel se mit à rire, très fort, et s'écria « Maintenant, la baguette fatale est brisée sur moi, n'est-ce pas, mon cher enfant? Qu'en penses-tu? Plus rien maintenant! Je suis libre, libre, me voici libre, vivat, je suis libre! Maintenant, je ne fabrique plus de violon, vivat, plus de violon !» Le conseiller chantait ses paroles sur une cadence d'une gaieté infernale et faisant toujours des cabrioles à cloche-pied. Plein d'horreur, je voulais m'enfuir, mais le conseiller me retint de force, en me disant avec le plus grand calme « Restez, monsieur l'étudiant, ne prenez pas ces épanchements de la douleur qui me déchirent avec des tortures inouïes pour de la folie. Mais tout cela n'arrive que parce que je me suis fait, il y a quelque temps, une robe de chambre dans laquelle je voulais avoir l'air du destin, de Dieu. » Le conseiller continua à débiter des propos extravagants et horribles, jusqu'à ce qu'enfin il tomba d'épuisement. À mes cris, sa vieille gouvernante accourut, et j'éprouvais du soulagement à respirer le grand air, hors de cette maison. Je ne doutais pas un instant que Crespel ne fût devenu fou. Toutefois, le professeur soutenait le contraire. « Il y a certains hommes, disait-il, auxquels la nature ou une circonstance particulière ont retiré le voile sous lequel nous autres nous commettons nos folies, sans provoquer le même scandale. » Ils ressemblent à ces insectes, à la peau transparente, que fait paraître, difforme, le jeu actif et visible de leurs muscles, quoique tout s'adapte à sa place, et forme un ensemble régulier. Ce qui en nous ne sort pas du domaine de la pensée, chez Crespel se transforme tout en action. L'ironie amère qui assiège notre esprit sous le joug des préoccupations matérielles, Crespel la manifeste par ses folles grimaces et ses sauts périlleux. Mais c'est là sa sauvegarde. Ce qui provient de l'essence terrestre, il le rend à la terre. Mais le principe divin, il sait le conserver. Et je crois son intellect intime fort sain, malgré cette folie apparente et ses caractères explicites. La mort subite d'Antonia doit assurément l'avoir frappé. Néanmoins, je parie que le conseiller reprendra dès demain son allure routinière, comme l'âne qui rentre dans l'ornière favorite en dépit de tout. La prédiction du professeur se réalisa presque entièrement. Le jour suivant, le conseiller se montra le même que d'habitude. Seulement, il déclara qu'il ne fabriquerait plus de violon et ne jouerait plus sur aucun. J'ai su, depuis, qu'il avait tenu parole. Les réflexions du professeur m'affermirent dans ma conviction intérieure que les rapports d'Antonia avec le conseiller, tenus secrets avec tant de soin, et que sa mort même, devait cacher un méfait odieux et faire peser sur la conscience de Crespel un remords incurable. Je résolus de ne pas quitter H sans lui reprocher le crime que je soupçonnais. Je voulais l'ébranler jusqu'au fond de l'âme et lui arracher ainsi l'aveu de cet horrible forfait. Plus j'y réfléchissais, plus il me paraissait évident que cet homme devait être un scélérat, et plus véhémente, plus pathétique, se formulait en moi la locution que je me proposais de lui faire, au point qu'elle prit ainsi d'elle-même les développements et tous les caractères d'un vrai chef-d'œuvre de rhétorique. Monté de la sorte, et encore dans le feu du transport, je courus chez le conseiller. Je le trouvais occupé à tourner des jouets d'enfant avec un visage calme et riant. « Comment, m'écriai-je en l'abordant, comment peut-il y avoir un seul moment de paix dans votre âme, au souvenir de l'action épouvantable qui doit vous ronger comme une morsure de serpent ?» Le conseiller me considéra d'un air étonné, et mettant son outil de côté, il me demanda « Que voulez-vous dire, mon cher ? Ayez la complaisance de vous asseoir sur cette chaise. » Mais je continuais avec feu, m'échauffant toujours davantage, et je l'accusais hautement d'avoir tué Antonia, en le menaçant de la vengeance du ciel. En ma qualité d'homme de loi récemment investi, et plein de ma vocation, j'allais même jusqu'à lui certifier que j'userais de tous les moyens pour découvrir les traces de son crime, et le livrer aux mains de la justice humaine. J'avoue que je fus un peu déconcerté, quand, après m'avoir laissé achever ma virulente et pompeuse apostrophe, le conseiller, sans me dire un mot, me regarda fort tranquillement, comme s'il attendait que je continuasse de parler. J'essayais, il est vrai, de le faire, mais tout ce qui sortait de ma bouche était si incohérent et même si ridicule que je m'empressais de garder le silence. Crespel jouissait de mon embarras. Un sourire malin et ironique passa sur ses traits. Mais bientôt, il devint très grave et dit d'un ton solennel. « Jeune homme, tu me regardes comme un fou, comme un insensé. Je te pardonne, car nous sommes tous deux hôtes du même séjour de fous. Et tu n'es irrité contre moi de ce que je crois être Dieu le Père que parce que toi-même tu te crois Dieu le Fils. Mais comment oses-tu vouloir pénétrer dans une vie qui te fut étrangère, qui devait l'être? Et as-tu rêvé d'en surprendre les fils les plus secrets? Elle n'est plus, le secret a cessé. » Crespel se recueillit, se leva et parcourut la chambre à pas silencieux. Je me permis de lui demander comme une grâce des éclaircissements. Il me regarda en face, me prit par la main et me conduisit à la croisée dont il ouvrit les deux battants. Accoudé sur le balcon, le corps penché en dehors et les regards tournés sur le jardin, il me raconta l'histoire de sa vie et lorsqu'il eut fini, je le quittai, touché et confus. Voici en peu de mots les circonstances qui concernaient Antonia. 20 ans auparavant, le désir dégénéré en passion de rechercher et de se procurer les meilleurs violons des vieux maîtres conduisit le conseiller en Italie. À cette époque, il n'en faisait pas encore lui-même ni ne s'occupait de les démonter. À Venise, il entendit la célèbre cantatrice Angela, qui brillait alors du plus vif éclat dans les premiers rôles sur le théâtre de San Benedetto. L'enthousiasme qu'elle inspira à Crespel ne s'adressa pas seulement à l'art que la signora Angela pratiquait, à la vérité dans la perfection, mais bien aussi à sa beauté ravissante. Le conseiller rechercha la connaissance d'Angela, et malgré toute sa rudesse, il parvint surtout grâce à son jeu hardi et éminemment expressif sur le violon, à captiver entièrement ses faveurs. La liaison la plus intime eut pour résultat en peu de semaines un mariage qui demeura secret, parce qu'Angela ne voulait renoncer ni au théâtre ni au nom qui désignait la cantatrice célèbre, ni même y adjoindre le nom trop peu mélodieux de Crespel. Crespel me décrivit, avec l'ironie la plus folle, de quelle façon inouïe la signora Angela le tourmenta et le tortura dès qu'elle fut devenue sa femme. Tous les caprices, toutes les idées fantasques de toutes les primées donnes réunies avaient été, au dire de Crespel, concentrées dans le petit individu d'Angela. Lui arrivait-il de vouloir se mettre un peu sur la défensive? Angela envoyait à ses trousses une armée entière d'abbati, de maestri, d'accademici, qui, ignorant sa véritable condition, le traitait du plus insupportable, du plus incivil des amants, en lui reprochant de ne pas savoir se plier aux fantaisies de la signora. Après une scène de ce genre, fort orageuse, Crespel s'était réfugié à la maison de campagne d'Angela, et il oubliait les tourments de la journée en improvisant sur son violon de Cremone. Mais, peu de temps après, la signora, qui l'avait suivi à la hâte, entra dans le salon. Elle était justement d'humeur à jouer la tendresse. Elle vint, d'un œil doux et langoureux, embrasser le conseiller, et puis reposa sa petite tête sur son épaule. Mais le conseiller, égaré dans le monde musical de ses accords, continuait à jouer, de manière à faire résonner les murailles, et il arriva que sa main, armée de l'archet, toucha un peu rudement la signora. Elle se releva, exaspérée. « Bestia tedesca, espèce de brute allemande !» s'écria-t-elle. Elle arracha le violon des mains du conseiller et le brisa en 1000 morceaux sur le marbre de la table. Le conseiller resta un moment devant elle, tel qu'une statue pétrifiée. Mais se réveillant soudain comme d'un rêve, il saisit la signora avec une force d'Hercule, la jeta par la fenêtre de sa propre maison de campagne et se sauva, sans s'inquiéter du reste, à Venise d'abord, puis de là en Allemagne. Ce ne fut que quelque temps après qu'il comprit ce qu'il avait fait. Bien qu'il sût que la croisée était à peine à 5 pieds d'élévation du sol, et qu'il vit encore clairement la nécessité qu'il avait eue de jeter la signora par la fenêtre, dans les circonstances susdites, il se sentait pourtant poursuivi d'une pénible inquiétude, d'autant plus que la signora lui avait donné à entendre assez clairement qu'elle avait l'espérance d'être mère. Il osait à peine prendre des informations et sa surprise fut extrême lorsque, environ 8 mois après, il reçut de sa chère moitié une lettre des plus tendres dans laquelle, sans faire la moindre allusion à l'événement de la maison de campagne, elle lui annonçait la naissance d'une charmante petite fille, suppliant ardemment le marito amato e padre felicissimo, c'est-à-dire l'époux chéri et le père bienheureux, de vouloir bien revenir au plus tôt à Venise. Crespel n'en fit rien, mais il s'enquit auprès d'un ami intime des détails circonstanciés de l'aventure, et il apprit que la signora, dans cette occasion, était tombée mollement sur l'herbe, légère comme un oiseau, et que sa chute, ou plutôt son essor par la fenêtre, n'avait eu d'autre résultat qu'un contre-coup purement psychologique ou moral. La signora, en effet, après l'héroïque procédé de Crespel, parut comme métamorphosée. Il n'y avait plus chez elle la moindre trace de ses idées bizarres, de ses humeurs et de ses emportements. Bref, le maestro, qui était à l'œuvre pour le prochain carnaval, était l'homme le plus heureux du monde, parce que la signora était prête à chanter ses airs, sans les 10 000 corrections auxquelles il aurait été contraint de se prêter antérieurement. Du reste, on avait de bonnes raisons, ajoutait son ami, pour tenir soigneusement caché le secret de la cure pratiquée sur Angela, sans quoi il ne se passerait plus de jour qu'on ne fît voler par les fenêtres quelques cantatrices. Le conseiller fut vivement ému. Il commanda des chevaux et monta en voiture. « Halt ! » s'écria-t-il tout à coup. « Comment ? » murmura-t-il en lui-même. « N'est-il pas démontré qu'aussitôt que je l'aborde, l'esprit du malin reprend son influence et sa domination sur Angela ? Après l'avoir déjà jeté par la fenêtre, que ferais-je maintenant en pareil cas ? Quelle partie me reste ?» Il descendit de sa voiture, écrivit une lettre fort amicale à son épouse convalescente, la remerciant expressément des sentiments de tendresse qu'il apportait à se glorifier par-dessus tout que la petite fille eût, ainsi que lui, une légère marque derrière l'oreille, et il resta en Allemagne. La correspondance continua avec une grande activité. Les désirs déçus, 1000 espérances, etc., etc., volaient et s'entrecroisaient de Venise à H et de H à Venise. Enfin, Angela vint en Allemagne et se distingua, comme on sait, dans l'emploi de prima donna sur le grand théâtre de F. Quoiqu'elle ne fût plus absolument jeune, elle ravissait tout le monde par le charme irrésistible de son rare et merveilleux talent. Sa voix n'avait rien perdu de sa puissance. Cependant, Antonia avait grandi, et sa mère ne pouvait se lasser d'écrire au conseiller qu'Antonia promettait d'être un jour une cantatrice de premier ordre. Ce présage était confirmé d'ailleurs à Crespel par ses amis de F, qui l'engageaient à venir dans cette ville pour admirer la réunion des deux sublimes cantatrices. Il ne se doutait pas quel rapport intime existait entre le conseiller et ses deux femmes. Crespel aurait, de bien grand cœur, voulu voir en réalité sa fille qui lui était si chère et dont l'image lui avait plus d'une fois apparu en songe. Mais, dès qu'il pensait à sa femme, il se sentait tout troublé et il finit par demeurer chez lui, au milieu de ses violons démontés. Vous aurez entendu parler du jeune compositeur B de F qui donnait de si grandes espérances et qui nous priva tout à coup de ses productions, on ne sait pourquoi. Peut-être l'avez-vous connu lui-même. Eh bien, ce jeune homme devint éperdument amoureux d'Antonia, et il proposa à sa mère, au cas où il serait payé de retour, d'approuver une union qui serait à la gloire et au profit de l'art. Angela avait donné son assentiment, et quant au conseiller, il consentait d'autant plus volontiers que les compositions du jeune maître avaient trouvé grâce devant son jugement sévère. Crespel s'attendait à recevoir la nouvelle de la conclusion du mariage quand il lui parvint au contraire une lettre cachetée de noir dont l'adresse était écrite par une main étrangère. Le docteur R. annonçait au conseiller qu'Angela était tombée dangereusement malade des suites d'un refroidissement gagné sur le théâtre et qu'elle avait succombé dans la nuit même qui précédait le jour fixé pour les noces d'Antonia. Le docteur ajoutait qu'Angela lui avait confié que Crespel était son mari et le père d'Antonia. Il l'engageait donc à se hâter de recueillir la pauvre jeune fille. Bien que le conseiller fût vivement ému de la mort d'Angela, bientôt après il lui sembla que sa vie était délivrée d'un principe de trouble et de contrariété et qu'il commençait de ce moment à respirer à l'aise. Il partit le même jour pour F. Et vous ne sauriez croire de quelle manière saisissante le conseiller me décrivit sa première entrevue avec Antonia. Dans la bizarrerie même de ses expressions, éclatait une puissance singulière d'effet dramatique, dont je ne suis pas capable de vous donner seulement idée. Toute l'amabilité, toute la grâce d'Angela était échue à Antonia, mais abstraction faite de l'ombre de ses défauts. Nulle part ne se trahissait la moindre trace du pied fourchu. Le jeune fiancé se trouvait présent. Antonia, par une inspiration délicate et une justesse d'à-propos qui surprit son père, extraordinaire dans ses sentiments les plus intimes, se mit à chanter un des motets du vieux père Martini. Il savait qu'Angela chantait sans cesse cet air au conseiller dans les beaux jours de leurs amours. Crespel répandait des torrents de larmes. Il n'avait jamais entendu chanter de la sorte, même Angela. Le timbre de la voix d'Antonia était tout particulier et étrange. Il ressemblait tantôt au murmure de la harpe éolienne, tantôt au chant sonore du rossignol. Les tons en paraissaient ne pouvoir se développer dans l'espace trop étroit d'une poitrine humaine. Antonia, rayonnante, brillant de plaisir et d'amour, chanta et rechanta tous ses plus beaux airs. Et B jouait en même temps, comme l'enthousiasme seul peut en rendre capable. Crespel nageait d'abord dans le ravissement, puis il devint préoccupé, silencieux, rêveur. Enfin, il se leva, pressa Antonia contre son cœur et la conjurant à voix basse et étouffée. « Ne plus chanter, si tu m'aimes, dis cela, cela me fend le cœur, j'ai peur, oh ne chante plus !»« Non, disait le lendemain le conseiller au docteur R, non. Lorsque pendant qu'elle chantait, deux taches d'un rouge vif se dessinèrent sur ses joues pâles, ce n'était plus une sotte ressemblance de famille. C'est ce que je craignais. » Le docteur, qui manifestait une vive inquiétude depuis le commencement de ce discours, répliqua « Soit que cela provienne d'efforts trop précoces pour chanter, soit que la nature en soit la cause, Antonia est affectée d'un défaut organique dans la poitrine, et c'est précisément ce qui donne à sa voix cette portée prodigieuse et un son si extraordinaire, pour ainsi dire inadmissible dans la sphère du chant humain. Mais aussi, sa mort prochaine en serait la conséquence. Car si elle continue à chanter, je lui donne, tout au plus, encore 6 mois à vivre. » Le conseiller se sentit déchiré intérieurement, comme par 1000 coups de poignard. Il lui semblait voir un bel arbre qui se parait pour la première fois d'une floraison magnifique, condamné à être scié à sa racine pour ne plus reverdir jamais. Sa résolution était prise. Il révéla tout à Antonia et lui proposa le choix entre ces deux parties. Ou bien s'unir à son fiancé et céder à ses séductions et à celles du monde, pour mourir bientôt. Ou bien vivre encore de longues années si elle voulait assurer à son père, dans ses vieux jours, une paix et un bonheur dont il n'a jamais joui jusque-là. Antonia se jeta en sanglotant dans les bras de son père. Il n'exigea pas d'autre explication, prévoyant bien toute l'amertume des moments qui suivraient. Il parla à son fiancé, mais en dépit des serments que fit celui-ci de ne jamais permettre qu'un son musical sortît de la bouche d'Antonia, le conseiller était persuadé que B lui-même ne pourrait pas résister à la tentation d'entendre Antonia chanter au moins un air de sa composition. Et le monde, d'ailleurs, quand même il eût été prévenu du sort réservé à Antonia, n'aurait sans doute pas renoncé à ses prétentions, car le public musical, pour ce qui touche à ses jouissances, est une espèce égoïste et cruelle. Le conseiller disparut avec Antonia de la ville de F et vint à H. Le jeune B apprit leur départ avec désespoir. Il se mit sur leurs traces, rejoignit le conseiller et arriva à H à la même heure. « Le voir une seule fois et puis mourir, » dit Antonia suppliante. « Mourir, mourir !» s'écriait le conseiller dans un violent transport. Un frémissement glacial le faisait tressaillir. Sa fille, le seul être au monde qui enflamma son cœur d'une joie qu'il n'avait jamais goûtée et qui seul le réconciliait avec la vie, songeait à s'arracher violemment de son cœur. Alors il résolut de laisser l'atrocité se consommer. B dut se mettre au piano, Antonia chanta, Crespel jouait gaiement du violon jusqu'à ce que les taches rouges apparurent sur les joues de sa fille. Il ordonna alors d'interrompre, mais quand B prit congé d'Antonia, elle tomba subitement en jetant un cri aigu. « Je crus, me dit Crespel, qu'ainsi que je l'avais prévu, elle était réellement morte, et comme je m'étais volontairement résigné au plus grand malheur, je demeurais très calme, et mon sang-froid ne se démentit pas. Je saisis par les épaules B, qui dans son saisissement avait l'air hébété et stupide, et je lui dis, et le conseiller prit son ton de voix chantant, « Puisque selon votre désir et votre volonté, digne et estimable maître de clavecin, vous avez réellement tué votre chère fiancée, vous pouvez à présent partir tranquillement, à moins que vous ne daigniez attendre un peu pour que je vous plonge dans le cœur ce brillant couteau de chasse et pour que ma fille, qui comme vous le voyez pâlit excessivement, recouvre un peu de ses couleurs, gâchera votre sang très précieux. Courez donc bien vite !» Et je ne promets pas de ne point lancer après vous, cependant quelques lames bien affilées. Il faut bien qu'en parlant ainsi, ajouta Crespel en me regardant, j'ai eu l'aspect tant soit peu effrayant, car il s'arracha de mes mains avec le cri de la plus extrême frayeur, et il s'élança d'un bond au bas de l'escalier. Quand le conseiller, après la fuite de B, songea à relever Antonia, étendue sans connaissance, elle ouvrit les yeux, avec un profond soupir. Puis ils se refermèrent aussitôt, comme ceux d'une mourante. Alors Crespel éclata en gémissements violents. Le médecin, mandé par la gouvernante, qualifia l'état d'Antonia d'accident grave. Mais nullement dangereux, et en effet, elle se rétablit même plus promptement que le conseiller n'avait osé l'espérer. Elle voua alors à Crespel l'amour filial le plus ardent. Elle entrait dans ses goûts, dans ses caprices, dans ses idées de prédilection. Elle l'aidait à démonter de vieux violons et à en ajuster de neufs. « Je ne veux plus chanter, je veux vivre tout entière pour toi, » disait-elle souvent à son père avec un gracieux sourire, lorsque quelqu'un l'avait priée de chanter et qu'elle avait refusé. Toutefois, le conseiller tâchait d'éviter les occasions de ce genre, autant que possible, ce qui motivait sa répugnance à paraître avec elle en société et son attention à éviter tout prétexte de musique. Il comprenait quel douloureux sacrifice devait s'imposer à Antonia pour renoncer entièrement à l'art qu'elle avait exercé à un si haut degré de perfection. Quand le conseiller, après avoir acheté ce merveilleux violon, qu'il enterra plus tard avec Antonia, se préparait à le démonter, Antonia le regarda tristement et le suppliant avec douceur. « Celui-là aussi, » dit-elle. Le conseiller lui-même ne savait pas quelle puissance inconnue l'obligea à laisser ce violon intact et à vouloir l'essayer. À peine eut-il donné les premiers accords, qu'Antonia s'écria avec joie. « Ah, mais c'est moi, je chante encore !» En effet, les sons de cet instrument, argentin et semblable au timbre des cloches, avaient un caractère tout spécial et miraculeux. Parfois, il semblait émis par une poitrine humaine. Crespel fut attendri au dernier point. Il jouait bien mieux que jamais, et quand, dans certains passages hardis, il montait et descendait avec une vigueur incomparable et une profonde expression, Antonia battait des mains et s'écriait ravie. « Ah, j'ai fait cela, j'ai bien fait cela !» Depuis cette époque, il y eut dans son existence un grand calme et une grande sérénité. Elle disait souvent au conseiller « Je voudrais bien chanter quelque chose, mon père. » Et Crespel, alors, détachait le violon du mur et jouait les plus beaux airs affectionnés d'Antonia, qui en éprouvait un contentement intime et délicieux. Peu de temps avant mon retour à H, le conseiller crut entendre une nuit jouer sur son piano dans la chambre voisine, et bientôt il distingua évidemment que B préludait à sa manière habituelle. Il voulut se lever, mais un poids énorme l'oppressait, et comme enchaîné dans des liens de fer, il était hors d'état de faire le moindre mouvement. Antonia commença alors à chanter d'une voix d'abord à peine perceptible, qui devint ensuite de plus en plus vibrante, jusqu'au fortissimo le plus bruyant. Enfin, ces sons merveilleux vinrent à moduler cet air, si entraînant et si passionné, que B avait autrefois composé pour Antonia, tout à fait dans le bon vieux style des anciens maîtres. Crespel dépeint l'état où il se trouvait comme une chose inconcevable, car il ressentait à la fois une horrible angoisse mêlée à une joie ineffable. Tout à coup, il se vit entouré d'une clarté éblouissante, et il vit au milieu d'elle B et Antonia se tenant embrassés et se regardant avec un mutuel ravissement. Les accords de l'ariette et l'accompagnement du piano continuèrent à résonner sans qu'Antonia chantât visiblement, ni que B mit la main au clavier. Alors le conseiller tomba dans une sorte de morne engourdissement et tout s'effaça devant lui, le concert et l'apparition. À son réveil, l'impression terrible de ce rêve funeste l'agitait encore. Il se précipita dans la chambre d'Antonia. Elle était couchée sur le sofa, les yeux fermés, les mains pieusement croisées, comme si elle dormait et qu'elle rêvât de voluptés célestes et infinies. Mais elle était morte.